Bonjour à toutes et tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc 1 Pierre 1, versets 1 et 2. Deux petits versets, mais combien riches. Et je ne mesure pas en avoir fait le tour, ni vous en donner toute la signification. Mais je prie que Dieu puisse nous parler et nous faire du bien, nous rappeler qui il est. Ce Dieu trinitaire, ce qui est parfois un peu difficile à rentrer dedans. Bien souvent, c'est une pierre d'achoppement pour nombre de nos concitoyens, et en particulier pour les musulmans, de voilà, comprendre ce Dieu trinitaire. Voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Voilà, je donnerai quelques pistes avec l'aide de Dieu sur ce que j'en ai compris, ce que j'en retire et ce que, au travers de la parole de Dieu, il me semble y voir. Sauvé par un Dieu trinitaire. Élu, choisi, sanctifié, purifié par l'action de Dieu le Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ. L'action du Dieu trinitaire. L'action du Dieu, je vais dire, trois en un. Je vais le lire, permettez-moi de le lire dans trois versions différentes. J'aime beaucoup, quand on médite la parole, lire la parole dans des versions différentes, parce qu'elles apportent des éclairages différents. Et chacun a sa saveur particulière ou a sa tournure particulière. Parfois, les versions sont exactement identiques. Parfois, des termes s'éclairent rien qu'en par les versions. Donc, je vais voyager dans des versions assez anciennes. Je vais commencer par celle de la Darby, que j'ai commencé à lire quand j'étais petit. Puis après, on lira la Summer et puis la Osterwald, qui m'apporte quelque chose qui me semble aussi important et en termes de nuance, voilà. Dans la Darby, il est dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion du pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, qui séjournent parmi les nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et moi, dans ce passage-là, ce que j'ai du mal à comprendre dans cette traduction-là, ou ce qui est difficile pour moi, c'est « en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ ». Cette tournure-là est un peu obscure pour moi. Mais on va y revenir un peu plus tard. Dans la Bible du Semeur, il est dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance. » Conformément à son plan. Et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Des choses un peu plus claires et d'autres choses qui peuvent l'être un peu moins. Et puis, dernière version, Osterwald. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, qui sont élus, à nouveau deux fois élus dans cette même traduction, selon la préscience de Dieu le Père. La préscience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ, et pour avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Trois versions, mais qui apportent, il me semble, des termes distincts ou synonymes et des éléments sur lesquels je vais revenir. Tout d'abord, j'ai été frappé par l'introduction de Pierre dans cette lettre, où il souligne, comme tous les auteurs des lettres du Nouveau Testament, excepté celle d'Hébreu, de Philémon, de Thessaloniciens, il souligne, comme l'apôtre Paul le fait, qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et les lettres à Philémon, Thessaloniciens et Philippiens, ce ne sont pas des lettres que l'apôtre Paul a écrites tout seul. Ils étaient deux ou trois. On voit Paul et Timothée, Paul et Sylvain, dans ces trois lettres-là, excepté celle d'Hébreu. Cela peut sembler peut-être prétentieux de la part de l'apôtre Pierre de dire qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Inutile peut-être au premier abord, mais il me semble au contraire que c'est important, nécessaire, indispensable. Paul va même plus loin dans certaines de ses lettres où il dit « Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée. Ces salutations, elles sont les mêmes dans l'ensemble de ces lettres que je viens de citer. Ce que j'aime ici, c'est que l'apôtre va clarifier, si je puis dire, son propos à ce sujet très rapidement. Et je vais y revenir. Pierre, par la mission qu'il a reçue de Jésus-Christ, d'être apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à certaines personnes dans cette lettre. Et elle me frappe aussi par l'actualité. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux élus, à ceux que Dieu a choisis, mais qui vivent une circonstance particulière, la dispersion. Je vais aborder un thème un peu compliqué, qui est le terme de l'élection. Je sais que c'est un thème un peu sensible. Aussi, j'aimerais prier avant de poursuivre, pour que Dieu, agissant par l'Esprit Saint, nous aide vraiment à comprendre ce qu'il veut nous dire, pour mieux nous aider à vivre en lui, de lui et pour lui. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce Dieu souverain que tu es, ce Dieu vivant, ce Dieu éternel, ce Dieu qui surpasse toutes choses, par qui sont toutes choses, pour qui sont toutes choses, ce Dieu d'amour qui nous donne un cadre de vie dans lequel nous pouvons nous épanouir. Merci notre Dieu, notre Père, de ce que, comme nous venons de le rappeler, en Jésus-Christ, tu nous as donné et tu nous as racheté de notre mode de vie. Merci de ce que, tu, non seulement tu nous as racheté, mais tu veux aussi nous conduire par ton esprit, dans la sainteté et l'obéissance. Merci d'avoir fait de moi ton enfant, et de chacun de ceux qui s'approchent de toi, ton enfant, par Jésus-Christ. Merci de nous avoir purifiés par ton sang, et de nous permettre d'avoir ta parole pour nous conduire aussi, par ton esprit, dans ce que tu es, mais non seulement dans ce que tu es, mais dans ce que tu veux que nous vivions. Tu nous as laissés sur terre, et ce n'est pas pour que nous en profitions à notre guise. Tu souhaites aussi que nous Brillons de toi, comme Bernard l'a rappelé en lisant Éphésiens, que nous célébrions la gloire de ta grâce. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin en étant à ton écoute pour mieux te connaître, et non seulement mieux te connaître, mais mieux vivre près de toi, mieux t'aimer, mieux te servir, mieux t'attendre. Amen. Élu, choisi, donc je vais prendre trois éléments, le Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ. Et on voit que l'élection semble être rattachée à Dieu le Père. C'est l'action de Dieu le Père. Élu selon la préscience de Dieu le Père ou la préconnaissance de Dieu le Père. C'est pour ça que j'ai pris un peu ces trois versions. La préscience dans l'Osterwald, que j'aime bien ce mot de préscience. Voilà, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à ceux qui sont élus et qui sont étrangers et dispersés. Donc cette dispersion, elle a fait suite à la persécution de l'Église primitive à Jérusalem, que l'on voit en acte au début du livre des Actes, mais elle s'adresse aussi aujourd'hui à nous qui sommes éparpillés, mais je pense aussi à nos frères et sœurs ukrainiens en particulier. Et je crois donc que la parole, comme il est dit au verset 23 de ce même chapitre, elle reste permanente, la vivante et permanente parole de Dieu. Et donc elle s'applique à nous encore aujourd'hui. Pierre parle de cette semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Ces croyants éparpillés sont, malgré leur situation de migrants et d'étrangers, des élus de Dieu. Ils sont des élus de Dieu. Et l'apôtre Pierre le rappelle deux fois dans ces deux versets, aux élus et à ceux que Dieu a élus. Comment ? Comment sommes-nous élus de Dieu ? Selon sa préscience, ou sa préconnaissance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que la préscience ou qu'est-ce que la préconnaissance ? La préconnaissance, on arrive à un peu appréhender ce que ça veut dire. Ça veut dire connaître avant même la connaissance. Le Larousse donne deux éléments, qui est la connaissance de l'avenir en lien avec la connaissance de l'avenir, en lien avec prémonition ou pressentiment. Mais il dit aussi connaissance que Dieu a de tous les actes humains. Une autre définition que j'ai trouvée, c'est la faculté divine de connaissance absolue, transcendant les catégories humaines, des passés, présents et à venir. Il me semble que l'élection dont parle le Nouveau Testament en particulier, que souligne Paul dans nombre de ses lettres et dont parle ici Pierre, ne peut se voir sans en même temps l'associer à la préscience de Dieu. L'élection, si Dieu nous a élus, c'est qu'il nous connaissait et qu'il avait cette préscience, cette préconnaissance de nous. L'élection, il me semble, est toujours liée à la préscience de Dieu. Si je crois que Dieu connaît toutes choses, j'espère que je n'ai pas de problème, en tout cas je pense que je n'ai pas de problème avec la doctrine de l'élection. Si je crois que Dieu est limité et n'a qu'une connaissance partielle, alors j'ai une difficulté à comprendre ce que Dieu veut dire par l'élection. En Éphésiens 1, et tu l'as lu Bernard, il est dit « Nous avons été élus en lui avant la fondation du monde ». C'est extraordinaire. élu en lui avant la fondation du monde. Ici, dit Pierre que l'élection se fait selon sa préscience, et il me semble que ça éclaire aussi justement ce que Paul peut dire et qui est peut-être un peu difficile concernant l'élection. Je vais essayer de l'éclairer d'une autre manière. Dieu connaît-il toute chose ? Oui, personnellement, je le crois. Et dans Actes, on voit que Jacques répond et dit au chapitre 15, verset 18, « Ces choses sont connues de lui de toute éternité. Tout ce qui se passe est connu de Dieu le Père de toute éternité. » Si Dieu connaît toute chose, il ne peut donc rien apprendre et il n'est surpris par rien. Il lui est impossible d'apprendre quoi que ce soit puisqu'il le sait déjà. S'il arrive que Dieu ait besoin de savoir quelque chose, il le sait déjà. Nous, nous sommes limités parce que nous pensons, nous réagissons de façon linéaire. Nous sommes dans un espace temporel, mais Dieu n'est pas limité par notre dimension temporelle. Quand il regarde de là où il se trouve, il peut en même temps voir le commencement et la fin. Il sait donc toute chose depuis le début. C'est cela la préscience de Dieu. En tant que parent, on peut peut-être un tout petit peu rentrer dans cela, en particulier vis-à-vis de nos enfants. Et c'est une faible image de ce que est Dieu. Si nous aimons nos enfants, si nous sommes proches d'eux, si nous vivons avec eux, tout en les laissant se développer et développer leur capacité d'autonomie, de choix, quand ils viennent à être placés devant des choix, bien souvent, on peut, en tant que parent, arriver à mesurer quel choix ils vont faire. Ça ne vous est jamais arrivé ? Bien entendu, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas sa préscience. Il s'agit là d'un pressentiment et même parfois nos enfants peuvent nous surprendre. Dieu est plus grand que nous. Il n'a pas de limite. Par conséquent, connaissant ceux qui répondraient à son amour et à sa grâce en Jésus-Christ, il les a élus pour qu'ils deviennent ses enfants. Parce qu'il connaissait la décision que nous prendrions individuellement face au choix que nous aurions à prendre. Il nous a donc élus parce qu'il nous connaît avant la fondation du monde. L'élection et donc selon sa préscience ou sa préconnaissance. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu face à cela. Mais voilà, ayons confiance en ce Dieu qui connaît toutes choses. Toutes choses sont de lui, par lui, pour lui. Et donc si on lui fait confiance sur le fait qu'il connaît toutes choses, on peut comprendre qu'il nous a élus, connaissant toutes choses à l'avance. Mais sa préscience l'amène aussi à agir, et c'est le point 2 que je souhaiterais aborder, conduit à la sainteté par l'action du Saint-Esprit. Comme je l'ai lu, et je vais reprendre la Osterwald, à ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. Sanctifiés par l'Esprit, et ça, c'est le travail ou l'action de l'Esprit-Saint. tout comme notre élection est selon sa préscience, notre sainteté l'est encore par son action dans nos vies, par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu, c'est une personne de la Trinité au même titre que Jésus-Christ et que le Père lui-même. Ce n'est pas simplement une puissance, une force qui nous vient de Dieu. C'est une personne. J'y reviendrai un peu plus tard. Pour illustrer un peu ce qu'est la Trinité, je vais prendre un exemple de la nature, qui, je pense, est assez simple. Qui aime la neige ? C'est tout ? Ça dépend. Qu'est-ce que la neige ? C'est des cristaux d'eau. Dans sa forme la plus compacte, c'est de la glace. Qu'est-ce que l'humidité ? Est-ce qu'on la voit ? Il y en a dans cette pièce, autrement on serait sans cesse en train de boire. L'humidité, c'est de l'eau. Qu'est-ce que la rosée ? C'est de la vapeur d'eau qui s'est condensée. Quel est le point commun de ces éléments ? C'est que ces trois ou quatre éléments, c'est la même nature. C'est de l'eau. Le point commun, c'est de l'eau, sauf qu'elle est dans différents états. Solide, gazeux, liquide. Solide pour la neige ou la glace, liquide pour l'eau que l'on boit ou la rosée, gazeux pour la vapeur ou l'humidité. L'eau passe d'un état à un autre en fonction des conditions dans lesquelles elle est présente. De la température, bien entendu, mais aussi de la pression atmosphérique. La glace peut passer à l'état vapeur sans passer par l'eau. Vous le saviez ? La glace peut être transformée en vapeur sans passer par l'eau, c'est ce qu'on appelle le point de sublimation. C'est un joli terme. C'est particulier, hein, et on peut le voir parfois, hein, quand il y a de la... pas chez nous, mais dans des pays où il fait très très froid, il y a de la neige et de la glace qui s'accumulent sur les trottoirs, et elle peut disparaître sans qu'il y ait jamais eu d'eau. Elle s'est évaporée au point de sublimation. Et puis il y a un point triple pour les corps purs. Le point triple, c'est où les trois éléments, liquide, solide et gazeux, se produisent en même temps, au même moment, à une condition particulière. C'est valable pour l'eau, à la température de 0 degré, mais à 6000 fois moins de pression que la pression atmosphérique. C'est ce qu'on appelle le point triple. L'eau peut bouillir, la glace peut bouillir, on peut trouver de l'eau, on peut trouver de la glace, on peut trouver de la vapeur d'eau. C'est des exemples de la nature qui nous aident un peu à comprendre ce que peut être Dieu, le trois en un, si je puis dire, le trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ces éléments sont dans la nature. Et Dieu nous a donné ces éléments aussi pour comprendre, et j'aime associer à la fois sa parole, ce qu'il est, avec ce qu'il nous a donné, qui nous permettent de comprendre qui est Dieu et ce qu'il peut faire, et de l'illustrer. Même si ça reste limité, mais c'est suffisamment important pour comprendre des mystères parfois de sa parole. Dieu le Père s'est révélé sur la terre dans un espace temporel en Jésus-Christ. Et il est présent aujourd'hui par le Saint-Esprit, à la fois dans ma vie, mais également dans notre monde. Tout comme la vapeur d'eau est présente dans cette pièce et dehors, et que j'ai de l'eau pour vivre, mon corps est constitué à 60% d'eau, mais le Saint-Esprit peut être en moi et dans le monde. L'Esprit Saint est Dieu, comme je le disais avant, une personne indissociable de la Trinité. C'est Dieu lui-même dans son action qui est présenté par Jésus-Christ dans Jean au chapitre 14. Désolé d'insister un petit peu, au chapitre 14 et au verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il parlait de lui et il parlait de son départ. Un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité. Et en cela, il ne parlait pas simplement d'une puissance ou de quelque chose qui n'était pas une personne. On le voit le rappeler au verset 26. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. L'Esprit Saint, le Défenseur, le Consolateur, l'Esprit de vérité, on en a eu aussi dans les chants, le 1001, j'aime qu'on a chanté tout à l'heure, où il y avait... beaucoup de liens associés à la personne de Dieu, mais de Jésus-Christ, mais aussi de l'Esprit-Saint. L'œuvre de l'Esprit-Saint dans nos vies, l'apôtre Pierre le rappelle ici, c'est de nous conduire à la sanctification, c'est de nous sanctifier, et c'est lui qui fait cette œuvre. C'est lui qui fait cette œuvre en nous. Nous sanctifier, nous mettre à part pour Dieu, pour vivre de lui, pour lui et en lui. Nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes, avec nos propres forces. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Avec toute l'énergie que l'on veut, on n'y arrive pas. Ça serait de la prétention, ça serait de l'orgueil qui nous amènerait bien loin de ce que Dieu a envie pour nous et les autres. En lien avec ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 20, on voit aussi que c'est Dieu qui accomplit en nous, par son Esprit, ce travail de sanctification. Il est dit, « Or le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur, Jésus, vous rendra accompli en toute bonne œuvre, ou agisse en vous pour vous fassiez toute bonne œuvre. » C'est lui qui agit en moi. Ce n'est pas moi qui fais par moi-même. Alors il y a une condition et j'y viendrai tout à l'heure. Mais c'est lui qui agit en moi pour que je sois rendu accompli en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu par moi-même. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu par mes propres forces. Seul l'Esprit Saint agissant en moi peut me permettre de faire que je fasse la volonté de Dieu. Faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ. Hébreux 13, versets 20 et 21. On voit que c'est l'action de Dieu dans sa Trinité, au travers en particulier du Saint-Esprit, qui agit en moi, qui me rend capable, qui me rend obéissant. Et là, il est question... donc de sainteté pour que nous obéissions ensuite, nous lui obéissions. C'est donc l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous sanctifie, qui nous met à part. Il nous met à part non pour que nous vivions reclus, en tant que migrants et étrangers sur la terre, mais pour que nous puissions être dans cette faiblesse humaine des étendards de son action vivifiante dans nos vies jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Cette action de sanctification dans nos vies par l'Esprit Saint a pour but l'obéissance. l'obéissance, et en particulier dans l'adversité. Cette lettre parle beaucoup d'épreuves, de l'épreuve, celle de notre foi, et qui est systématiquement mise en parallèle du salut et de la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa venue en gloire. L'apôtre Pierre n'élude pas le fait de la souffrance, de l'épreuve, mais il rappelle, un, notre identité d'élu et la perspective qu'il y a. Conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant, c'est le programme de toute une vie, mais qui sera couronné, comme il est dit, un peu plus loin au verset 9, et je ne vais pas spolier non plus ceux qui vont prendre la suite, mais voilà, cette épître est riche. Il est dit au verset 9, ce qui sera couronné d'une joie indescriptible et glorieuse, afin que vous vous réjouissiez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant à la fin de votre foi le salut de votre âme, ou pour prix de votre foi, le salut de notre âme. J'en viens au troisième point. Ce travail de sanctification en nous ne peut s'accomplir sans débuter par un travail de purification. Il est question dans différentes traductions de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et j'étais frappé en préparant ce partage sur ce thème de voir comment Dieu aussi m'avait conduit à lire le livre de l'Exode. Et prendre ce passage où il est question de l'aspersion du sang de Christ et prendre le passage de l'Exode où il est question justement de l'aspersion du sang m'a beaucoup encouragé. Je vais y venir. Purifié par l'aspersion du sang de Christ sur ma vie. Tout comme notre élection est selon la préscience de Dieu, notre sainteté l'est dans l'obéissance que produit en nous l'Esprit Saint. Notre purification ne peut pas se faire sans le sang que Jésus-Christ a versé à la croix par amour pour nous. Cette action de Dieu, du Dieu trois en un, trinitaire, est indissociable des deux autres. Et on ne peut être purifié qu'en étant aspergé du sang de Jésus-Christ. Comme Moïse l'a fait dans Exode 24 au verset 8, après avoir lu le livre de l'Alliance devant le peuple, en redescendant de la montagne, en ayant reçu les commandements et les lois, il a pris le livre de l'Alliance devant le peuple, il les a lus, et après cela le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous y obéirons. Et Moïse prit le sang des taureaux et des boucs qu'il avait tués et il en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu sur vous sur la base de toutes ses paroles. Drôle d'élus que nous sommes aspergés de sang. Si je puis dire. Oui, mais nous ne sommes pas aspergés du sang de n'importe qui. Nous sommes aspergés du sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Celui du sang précieux de Christ, comme il est dit un peu plus loin aussi, au verset 19 de ce même chapitre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu. Nous sommes aspergés, nous sommes à l'abri de ce sang, si nous l'acceptons sur nos vies, purifié par ce sang et uniquement par ce sang. Cette marque de purification n'a pas de prix. Elle ne s'achète pas. mais elle se reçoit individuellement. Elle se reçoit individuellement par un renoncement à ma volonté, à mes prétentions, à ma connaissance. Dieu s'est mis en droit pour nous. Il s'est mis en droit pour que nous soyons élus selon la préscience de Dieu, conduits à la sainteté par l'Esprit de Dieu et purifiés par le sang de Christ. Dieu s'est mis en droit pour nous sauver. À ceux-là qui, aussi sur le plan humain, sont dispersés, étrangers parmi les nations, migrants sur la terre, à nous également en ce lieu, en ce temps, Pierre dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous pouvons recevoir cette grâce et cette paix abondante qu'en étant au bénéfice de ce salut que ce Dieu nous a donné, nous offre. Nous n'avons donc pas besoin de nous mettre en quatre pour ce Dieu qui s'est mis en trois pour nous. Nous avons simplement besoin de nous abandonner à lui, pour être conduits par lui, pour vivre une vie abondante en lui, même si la vie terrestre peut être rude. J'ai beaucoup aimé, Bernard, que tu rappelles Éphésiens, où on voit pourquoi Dieu nous a élus, pour célébrer la gloire de sa grâce. Et dans ce passage d'Éphésiens, on voit que l'apôtre Paul, il pilonne, il répète que comment dire, voilà, nous sommes bénéficiaires de cette grâce qui est glorieuse. C'est une richesse extraordinaire. Et nous sommes élus pour bénéficier de cela, mais aussi pour pouvoir la partager. Il s'agit donc d'une seule décision personnelle pour recevoir sa grâce et sa paix de façon inégalée. C'est donc par ce Dieu trinitaire que nous sommes sauvés. Et de ce fait, sa grâce et sa paix nous sont données en abondance. En abondance, quelles que soient les circonstances. Puissions-nous nous attacher à l'identité que Dieu nous a donnée, lui qui nous a élus, lui qui nous a choisis, lui qui nous sanctifie, lui qui nous a purifiés. Puissions-nous être conscients de cela et reconnaissants. Amen.